Vous écoutez Radio Show Football, la Banda Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. C'est des buts fabuleux.
En retrait, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
On se retrouve ce soir pour parler de la finale de la Coupe de France. Avec moi ce soir, j'ai Gabi, j'ai Joseph et j'ai Thibaut. Salut les gars.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde, c'est la bande à Badio.
Salut Nico et salut à tous.
Voilà, donc vous étiez tous les trois présents lors de cette finale de la Coupe de France. Donc victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Victoire qui était presque évidente de toute façon. Beaucoup voyaient un Paris Saint-Germain démonstratif, gagné par plus de 5 buts ou au moins 5 buts. Ça n'a pas été le cas. On a vu une très très belle équipe des Herbiers qui se sont quand même défendus. Mais voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte cette Coupe de France. Et moi, je voulais savoir, les gars, comme vous étiez, est-ce qu'il y avait l'avant-match, comment c'était ? Est-ce que c'était détendu ? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance ? En plus, le stade était plein à craquer. Donc, allez-y, dites-moi un petit peu vos ressentis d'avant-match.
Ouais, bah, il y avait une superbe ambiance aux alentours du stade. Il y avait énormément de monde déjà dès 16h30, 17h. Et ce qu'on a pu remarquer avec Joseph et Thibaut, c'est que la plupart des Vendéens étaient venus en famille. Il y avait peu de gens qui étaient venus en tant que supporters groupés dans des bus. Et ils étaient venus par leurs propres moyens. Il y a des petites histoires avec des gens qui étaient venus en mobylette également de Vendée, qu'on a appris dans les journaux télévisés. Et puis voilà, quand on est rentré dans le stade, ce que Joseph m'a fait remarquer, c'est que il y avait plus de 20 000 dans les tribunes de supporters vendéens, parce que on avait annoncé 4 000 supporters officiels en déplacement, et on s'est retrouvé avec presque 25 000 avec une partie également de la tribune centrale en face des présidentielles qui était remplie. Ça dépassait largement le virage, et puis c'est des gens qui ont mis vraiment une très très bonne ambiance dès 19h à l'intérieur du Stade de France. Après je vous laisse Joseph et Thibaut dire ce que vous avez ressenti et observé pendant ce match.
Au niveau du public des Herbiers, ce que j'ai remarqué pendant tout le match, même pendant les buts qu'ont marqué le PSG, ils ont continué à chanter, pousser leur équipe, et puis c'était vraiment un public vraiment qui a été beaucoup de ferveur. Je dis pas que c'est comme le Racing Club de Lens quand ils se sont dépassés des fois en finale, mais on sentait vraiment cette ferveur. Je veux dire que ça, vraiment, j'ai, en tant que supporter du PSG, vraiment j'étais impressionné de l'ambiance qu'ils ont mis, même si c'était une ambiance pas ambiance ultra, mais vraiment c'était vraiment une ambiance super. Et puis je voudrais tirer un gros coup de chapeau à tous supporters des Herbiers. Franchement, ils ont fait un grand coup de chapeau.
Ouais, bah, et franchement, vas-y, à toi, Joseph, tes ressentis sur cette.
Non, j'allais dire, c'est marrant que Thibaut compare l'ambiance côté vendéen à l'ambiance côté parisien, en parlant des ultras. Parce que moi, ce qui m'a un peu, j'ai pas dire choqué, mais qui m'a interpellé, c'est le côté bon enfant a un côté en fait très froid. Ne serait-ce qu'aux alentours du stade, ben, quand on voit l'ambiance un peu kermesse, on va dire, des Vendéens qui étaient là. Et à un moment, avec Gabi, on a croisé le cortège en fait, des ultras parisiens. On n'avait pas l'impression que les personnes allaient voir le même sport, quoi. Ils étaient là pour faire la même chose.
Ouais.
Et ça s'est ressenti un peu dans le stade. Parce que lorsque les Vendéens lançaient des chants, bon, pour le coup, des chants assez simples, mais qui étaient vraiment repris par toute leur tribune, côté parisien, on avait un noyau qui chantait parfois des chants plutôt élaborés, et on sentait qu'il n'y avait que ce noyau en fait, qui chantait, Et tout autour, en fait, bah, ça ne prenait pas forcément. Donc, comme nous, on était en tribune latérale, la différence était, enfin, c'était assez saisissant.
Moi, j'étais pas, dans les tribunes. Moi, j'étais, moi qui étais dans la tribune, j'étais en intermédiaire, les ultras, je les voyais. Tous les chants qui ont essayé d'être pris parmi les gens qui étaient autour, mais il y en a beaucoup. Certains qui connaissaient pas les chants, etc. Je veux dire, moi, qui étais, moi, je les connaissais par cœur parce que j'étais pendant des années dans l'île avec Lutte et Salco. Mais c'est vrai que c'est, je suis d'accord avec ce sujet-là, mais après, ces gens reprenaient les chants, mais ça tenait pas.
Mais par contre, après, il y avait quand même un côté assez sympa en termes d'ambiance. C'est vrai que moi, quand je fais des finales de coupe, en général, bah, c'est quand mon équipe joue. Donc, je vois pas forcément cette espèce de combat de chants, on va dire. Et là, c'était assez marrant de voir qu'il y avait un espèce de brouhaha en fait, avec les chants des deux côtés qui se mélangeaient. J'ai beaucoup aimé l'ambiance.
Ouais, ça a fait un charme. Hein. On en a beaucoup parlé, Joseph et moi, pendant le match. Justement, il a fait des observations assez pointues sur les supporters. Et c'est vrai que moi, je l'ai remarqué hein, par rapport au Parc des Princes, où justement, tu as toute une tribune qui va chanter. Et se renvoyaient les chants. Hein, et tu voyais que là, il n'y avait pas d'échange, il y avait une guerre des supporters. Je pense que, tu vois, dans leur estime, peut-être que les Parisiens étaient un peu blessés par rapport au fait qu'il y ait moins de chants dans leur tribune à un certain moment. Et je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression tu vois, il y a des moments, ils se sont arrêtés de chanter pendant l'échauffement, des choses comme ça, qu'ils font jamais au Parc des Princes, comme s'ils étaient un peu en train de se regarder et se demander, mais comment on va organiser les chants, comment on va faire ci, il y a des gens qui chantent pas, je sais pas, il y a eu une remise en question à un moment donné avant le match, et parce que quand tu voyais les Herbiers avec toutes leurs tribunes, mais vraiment, tu te croyais à Interville, quoi, c'était
magnifique. C'est ça. Moi, je trouve... il y avait un côté intervillesque, ouais. C'est exactement ça, quoi. Il y avait un côté intervillesque.
Et comme si t'avais un chauffeur de foule, un chauffeur de public. Ouais. Et là, il n'y en avait pas, c'était spontané. C'était vraiment agréable, quoi. Et puis, il y avait une très bonne ambiance. Ils n'étaient pas là pour se battre avec qui que ce soit. Tu voyais des gens dans les pubs autour en train de discuter avec des Parisiens. Et puis voilà, quoi. C'était, pour eux, l'accomplissement, c'était déjà d'être au Stade de France. Hein.
C'est ça.
Sinon, vous avez vu un moment, ce qui est marrant, le speaker des Herbiers, à un moment, il a essayé de lancer alors, le chant principal des Herbiers, il s'entendait pas, je te jure. Ouais.
C'était pas possible.
Ouais. C'est sûr. Et la fin de match, comment ça s'est passé? Donc, tu m'as dit qu'il y avait eu un feu d'artifice et après, il y a eu les supporters de Paris, ils faisaient la fête en dehors du stade ou tout le monde est rentré chez soi comme ça, quoi. Comment ça s'est passé en fait?
Il était minuit, donc il y avait pas mal de gens qui essayaient déjà de choper un transport pour rentrer chez eux s'ils n'étaient pas venus en voiture.
Ça a pas dû traîner,
parce que là, t'as éliminé pas mal de transports après minuit sur Paris pour rentrer en banlieue déjà. Donc,
d'ailleurs, je te coupe un gamin, et justement, c'est peut-être le seul bémol en fait dans la soirée parce que justement, le feu d'artifice après la remise de la coupe était planifié. Et je comprends pas qu'on prolonge pas les transports en fait même d'une demi-heure pour permettre aux gens en fait d'en profiter.
Je suis entièrement d'accord avec toi, franchement.
Parce que du coup, en gros, ça a été le feu d'artifice, il a été tiré et après tout le monde a chavalé
C'est pas comme s'ils savaient pas qu'il y avait une finale de Coupe de France en plus. Hein. Enfin bon.
Ah, mais ils en foutent tout. C'est la grève de la SNCF.
Il y a la grève de la SNCF, donc ils n'en ont rien à faire. Au contraire, quoi.
Ouais. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour ce moment-là, quoi.
Mais sinon, autour du stade, t'avais des gens qui allaient encore dans les pubs boire de la bière, échanger, tout ça. Tous les Vendéens, je pense, qui restaient là, qui étaient venus
pour eux,
personnel. Ouais.
Pour eux, malgré la défaite, ça reste quand même forcément une victoire, mais un très très bon souvenir. Ouais. Personne en début de saison voyait les Herbiers, surtout que beaucoup, je pense, ne savaient même pas que les Herbiers jouaient au football. Et c'est vrai que pour eux, c'était quand même la fête jusqu'au bout. Ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu que 2-0 aussi, j'ai envie de dire. Hein. On va reparler là du match en lui-même dans quelques instants. Mais je pense que pour les Vendéens, hier, ils étaient fiers d'être Vendéens, ils étaient fiers des Herbiers. Et malheureusement pour eux, ça se trouve, on ne reverra plus les Herbiers dans l'équipe telle. Parce que je pense que là, Malgré tout, il va y avoir des joueurs qui vont passer dans des clubs pros. Enfin, ils sont pas pros, hein, de toute façon, je crois, les Herbiers en national. Il va y avoir des transferts. Voilà, je pense que déjà l'année prochaine, ils vont refaire avec une nouvelle équipe, un peu comme ce qui s'était passé avec Calais en 2000. Voilà.
Totalement. Hein,
Moi, ce qui m'a marqué sur cette équipe-là, si vous voulez, les gars, c'est que j'ai senti beaucoup de sérénité dans cette équipe, même quand il y avait là une grosse domination de Paris. Mais à un moment, je n'ai pas vu à un moment aller, je dégageais à tout va. Ils ont chaque fois essayé de relancer quand ils pouvaient, ils avaient le ballon. Essayer de relancer proprement. On sentait vraiment qu'ils n'étaient pas à faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'étais étonné de la maturité technique pour certains joueurs. Ils avaient une bonne maturité technique.
Ouais, c'est sûr. Bah, on va en arriver au match même. Bon, on va parler un petit peu des Herbiers. Alors voilà, bon, ça a été une finale qu'ils ont jouée, je pense, à fond. Après, malheureusement, ils n'ont pas eu énormément d'occasions non plus, quoi. Il y a eu en début de première période. Et puis après, la première action du match. Il y a eu, eu 2-3 actions dans le match. Et après, voilà, c'était plus défensif au milieu de terrain. Voilà, ça n'a pas allé plus loin. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à dire sur cette équipe des Herbiers, sur son style de jeu
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que moi, avec Joseph, on en a parlé justement pendant le match et on se disait que défensivement, les Herbiers, ils avaient un quatuor défensif vraiment qui tenait.
Intéressant.
Qui tenait la route et tu comprenais pourquoi ils étaient arrivés là parce que même si au milieu de terrain ils avaient trois joueurs qui étaient, on va dire, de qualité technique assez moyenne mais qui avaient du coffre. En défense, les mecs qu'il y a, sincèrement, ils n'ont rien à envier à certains clubs de Ligue 1. C'est là que je me dis que je ne comprends pas trop certains clubs comme Saint-Etienne, comme, je ne sais pas, moi-même le FC Metz, là, qui galère, Lille, etc., qui ont été chercher des joueurs en Amérique du Sud ou aux Pays-Bas. Ça me fait bien rire. Quand tu vois des joueurs comme le gardien de but Pichot, il y avait Marie, il y avait Fofana, Decker et Pagéry en défense, et ben ces joueurs-là, sincèrement, ils pourraient faire une superbe saison en Ligue 1 et pas forcément jouer le maintien, je pense, parce que ils ont tenu la dragée haute face à des joueurs du top 10 des clubs européens.
C'est vrai.
C'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait. Bon, après, voilà, en attaque.
Après, ils ont pas mal de chance aussi. Hein.
Ouais, parce que voilà, ils ont subi 3 poteaux en première période. Et puis ils ont subi pas mal de rafales avec des.
Ah, il y a eu 5-6 poteaux dans le match, hein, de toute façon. Hein. Il y a eu 5-6 poteaux. Hein. Il y a eu 3 poteaux. Il y a 5-6 poteaux. Bah, on va en arriver au. Enfin, vous avez quelque chose d'autre à dire sur les Herbiers?
Il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé côté Herbiers, le capitaine. J'ai trouvé que par un moment, il a eu un moment, je ne sais pas si vous avez vu, le festival de. Il a fait une roulette, puis il drift, etc. Ça, c'est un accent du match, mais j'ai trouvé que c'était un très bon joueur, honnêtement. Le gardien a eu beaucoup de chance, mais ce jour-là, je trouve qu'il ne restera pas du tout aux Herbiers, c'est le capitaine des Herbiers.
Ouais, bien sûr.
Beaucoup. J'ai trouvé très bon.
Flochon, il s'appelle. C'est le gars, c'est le joueur qui était à téléfoot.
Et toi, Joseph?
Ouais, pour compléter, parce que. Bon, Gab et Thibaut ont presque tout dit. Hein. Je pense que ce qui aura peut-être manqué aux Herbiers, c'est peut-être justement ce petit grain de folie. Parce que justement, à part cette roulette, et à un moment, après le deuxième but, en gros, ils ont commencé à se lâcher. Et je pense qu'il aura manqué ce petit grain de folie pour, je ne vais pas forcément dire exister, parce que c'était Paris en face, mais pour montrer qu'ils avaient quand même un minimum d'arguments. Parce qu'autant on aura vu les arguments défensifs, autant devant, on n'aura pas vu grand-chose. Pourtant, on sentait qu'il y avait peut-être un peu de qualité. Ils avaient alors par contre, j'ai pas eu tout le nom en tête, mais leur attaquant qui jouait sur le côté droit. En début de première mi-temps, il met 10 mètres sur 20 mètres à Berchiche. Et on se dit, ils vont jouer dans l'espace sur lui. Le mec, il va se régaler, quoi. Et puis finalement. Comme entre la défense qui était solide et les attaquants qui, a priori, avaient quand même un peu de talent. Il n'y a pas eu ce lien qui a fait qu'ils auraient pu peut-être faire plus. Peut-être qu'ils étaient déjà au taquet. Mais quand c'est la finale, faut aller au-delà du taquet, au-delà de ce qu'on peut faire. Faut finir minable. Et j'ai l'impression que leur objectif, c'était juste de ne pas prendre une raclée. Et qu'ils étaient contents d'avoir perdu 2-0. Mais est-ce que la victoire, ça n'a pas été de mettre un but, quoi. Surtout qu'ils n'étaient pas loin à la fin, à part deux fois. Et c'est peut-être ce qui a manqué. C'est peut-être ce qui a manqué. Un peu plus d'audace offensivement pour que la soirée soit vraiment.
Ils ont un peu calculé, comme tu dis. Hein.
Ouais, non, ça a manqué un peu de folie. Ça a manqué un peu de folie.
Obligé après, parce que.
Ah oui, non, ouais, bah non, c'est clair.
Tu joues contre une des meilleures équipes européennes, hein, tu sais pas trop à quoi t'attendre.
Bah surtout que Paris, comme ça permet de faire la transition. Surtout que Paris a joué très haut d'entrée. Et c'était limite surprenant. On sentait que Paris n'avait pas envie de traîner justement pour pas tomber dans un traquenard. Et après, la première action du match, donc, qui était pour les Vendéens, après, ouais, enfin, on leur a dit, on va vous laisser le ballon, mais vous allez galérer pour le sortir. Et justement, ce côté très appliqué des Herdiers aurait pu faire que le match soit plié très vite. Mais finalement, Paris a eu plus de difficultés que prévu pour mettre le premier but.
Avec trois poteaux pratiquement en 15 minutes avant le but de l'Ossesso, d'ailleurs, celui qui a fait un super match.
Ouais, l'Ossesso c'est très performant. Ouais.
Tu sais quoi, je vais mettre un bémol là-dessus. Parce que d'ailleurs, j'ai vu que dans l'équipe, il avait eu la meilleure note. Je crois que sur AMC, ils l'ont pas mal encensé. Et pour l'anecdote, au moment où il a marqué, j'étais en train de. Pas en train de le tailler, mais j'étais en train de dire que c'était marrant parce qu'on le voyait pas. Et on ne le voyait pas, et pourtant, pour moi, ce n'était pas de sa faute. Parce qu'en fait, sur le côté droit parisien, il y avait un souci. C'est que Dani Alves, il jouait super haut, qui faisait que pour ne pas se marcher sur les pieds avec Mbappé, il décrochait. Et du coup, il se retrouvait toujours dans la zone de Lo Celso, qui pour le coup, en fait, était souvent zappé.
Il était trop collé à un moment. Les trois étaient trop collés.
Voilà, et du coup, en fait, Lo Celso, on va dire, c'était, sur les trois, c'était celui qui n'avait rien à dire. Donc du coup, il devait se mettre où il pouvait. Et avant de marquer le but, moi j'ai l'impression qu'on ne le voyait pas. Et même après, moi personnellement, je ne l'ai pas beaucoup vu, Lo Celso. Et c'était limite un petit clin d'œil, en fait, que ça soit lui qui marque. Parce que il y avait un côté, je ne peux pas jouer mon jeu parce que je ne trouve pas ma place. Et sur le seul ballon potable que j'ai, je marque. Quoi.
Mais avant ses frappes, si tu veux, je trouve que déjà... Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait. Quand il prend sa chance de frappe, il a une frappe très précise comparée à certains joueurs du PSG, des fois Rabiot, qui va t'accadrer peut-être une frappe sur 4. Hein. Je suis gentil. Ouais. Mais Lo Celso, j'ai remarqué cette année, là, le peu de fois qu'il a frappé au but, ça terminait soit sur la barre, soit sur le but. Hein. C'est quelqu'un qui a. Surtout qu'il faudrait qu'il se lâche encore un peu plus. Et je pense qu'il pourrait marquer pas mal de buts. Mais à la base, Lo Celso, je trouve qu'on devrait le mettre à la limite un peu à la place de Pastore, beaucoup plus haut, parce que techniquement, il n'a rien à envier au. À Pastore
c'est son poste plus haut.
Parce que là, je trouve qu'en 8 ans aussi, je trouve qu'on se prive d'un mec qui pourrait faire beaucoup plus la décisive et puis être beaucoup plus performant encore.
Ouais, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Ça, c'est un travail, justement. Je pense qu'on a fait sur ce match. Il a placé certains joueurs en position pour l'année prochaine. Et t'as des petites prémices de ce qui pourrait arriver au PSG l'année prochaine avec un Lo Celso titulaire tout le temps. On a des petites choses comme ça. Berchiche, malheureusement, techniquement, c'est pas génial. Et puis le geste agressif qu'il a encore contre un milieu de terrain des Herbiers, là, à un moment donné, où sincèrement, tu revois la faute, c'est un rouge. C'est un rouge, c'est pas un jaune. Et je pense que l'arbitre, il a été hyper psychologue sur ce coup-là, parce que, comme il a été hyper psychologue aussi sur la fin de match où il aurait pu donner un autre penalty à Paris. Où tu vois c'est Rabiot ou Cavani qui se fait bousculer dans la surface après le but de Cavani justement, mais Berchiche, on avait dit ça avec Joseph en regardant le match, Daniel Vess et Berchiche, c'est les deux points faibles côté défense parisienne. Et c'est là que peuvent venir les attaques. Bah justement, tu sais, le joueur dont tu cherchais le nom, c'est Bongongi, des Herbiers côté droit. Et très bon joueur avec une bonne percussion qu'il a eu justement en deuxième période. Il a dépassé 2-3 joueurs, il s'est fait reprendre ensuite avec une faute.
Dans petit jeu manifeste.
Mais bon, c'est vrai que l'attaque des Herbiers, Rocheteau et German, c'était pas terrible. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais on va dire.
Et puis Thiago Silva et Marquinhos, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu à s'employer, mais ils ont été très sérieux défensivement. Comme d'habitude, d'ailleurs, ces deux défenseurs qui sont globalement très performants et dans les duels 1 contre 1, si. Mais pas trop de faux. On a vu qu'ils n'ont pas été trop gênés par ces deux attaquants-là.
Ouais. D'ailleurs, pour parler de la défense parisienne, celui qui est à son niveau, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, c'est Trapp. Hein. Une frappe, une boulette. Quoi.
Ouais. Là, il nous a. Bon,
heureusement qu'il n'avait pas rentré. Quoi.
Non, parce que moi, j'étais à l'opposé. Je vois qu'il y a un mec qui repousse une balle, mais je pense qu'il aurait pu la capter. J'étais à l'opposé. Donc.
J'aime bien la phrase. J'aime bien la phrase. J'étais à l'opposé du stade. Je pense qu'il pouvait capter.
Ouais. Parce que la frappe était pas la frappe était pas forte du tout.
Elle était sèche. Mais
il a fait une bonne sortie à un moment quand même sur en fin de match où l'attaque il bouge pas mal l'angle quand l'attaque en se présente à sa
gauche. Il sort vite. Ouais, c'est bien.
Il sort vite.
C'est une bonne chose.
C'est vrai. Ouais.
Après n'avoir rien fait pendant toute 90 minutes.
Ouais. Il s'est refroidi parce qu'en première mi-temps, le pauvre, à part 1-6 mètres, il n'a pas touché un ballon. Je ne sais pas si vous bougez tant.
Il a tiré ou pas
si, sur c'est la première frappe à côté du match après le corner.
Et moi, il y a un truc que je veux regarder, c'est que je regarde si le parcours des Herbiers. Sans manquer de respect aux Herbiers qui ont fait un faut le faire de toute façon. Ouais. Après, le souci, c'est qu'ils n'ont pas rencontré de top club de Ligue 1. Ils ont rencontré que des équipes de National, CFA ou voire Ligue 2, mais des Ligue 2 mal classées pour l'époque. Ils se sont jamais vraiment confrontés à des gros, en fait. Et je pense que là, hier, c'était leur premier gros test.
C'est la seule Ligue 1 qu'ils ont rencontrée
et je pense que contre les Ligue 2 qui n'étaient pas très bien là je vois ils avaient battu Auxerre à l'époque où ils les avaient battus, c'était un Auxerre qui était dans le bas du classement de la Ligue 2. Ensuite ils ont rencontré Lens qui était dans les derniers de la Ligue 2 aussi. Et puis Chambly, National. Après, ça n'enlève rien de leur exploit d'arriver jusqu'en finale. Mais voilà, hier, ils se sont confrontés à une vraie équipe de football. Quoi. Enfin, vraie équipe, pardon, je dis que Auxerre ou les autres ne sont pas des vraies équipes de football. Mais non, franchement, hier, ils sont tombés contre beaucoup plus forts qu'eux. Quoi.
Non, c'est clair. C'est bien que tu parles de ça parce que je ne savais pas trop comment l'amener. Et c'est vrai que je me suis même fait la réflexion, est-ce que c'est pas la première fois en fait qu'on a un club qui arrive en finale sans avoir rencontré de Ligue 1sur le parcours.
Il me semble que tu as raison parce que quand Quevilly, quand ils avaient été en finale,
ils avaient battu Marseille, Quevilly, Calais avait battu Strasbourg, Bordeaux, en pleine bourre à l'époque, Bordeaux en plus. Voilà, là, c'est un parcours atypique quand même. Hein. Ce n'est pas un parcours comme les autres. Mais après, ça n'enlève en rien de leur super parcours. Et vraiment, bravo à cette équipe des Herbiers qui ont quand même pas été
réticulés. C'est Paris qui a mis les clubs de Ligue 1.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que par contre, à l'inverse, parce que moi, j'ai entendu des personnes qui disaient « Ouais, mais c'est facile pour Paris de gagner la Coupe vu qu'ils ont battu. » Parce qu'en fait, les gens sont focalisés sur la finale. Mais Paris qui a plutôt de la chance au tirage en général, là cette année ils ont pris quasiment que des Ligue 1 sur tout le parcours.
C'est ça, Rennes, Guingamp, Marseille Caen. Que des équipes pas faciles et en n'ayant que deux matchs au Parc des Princes.
Donc comme quoi cette année en fait le parcours de Paris, tout Paris qu'il est, il était peut-être moins évident que les autres années. Et je pense la satisfaction parisienne, elle doit être là, en fait. De se dire que même si la finale était abordable, ils ont quand même fait le job sur tout le parcours, quoi.
C'est certain. Ouais. Mais tu vois, peut-être à l'inverse aussi, il y a peut-être des années où tu as des clubs de Ligue 1 qui sont arrivés en finale en jouant peut-être jamais un club de Ligue 1.
Marseille. En finale contre Paris il y a 2 ans. Je crois qu'ils ont rencontré une Ligue 1 et encore je crois qu'après c'était que des Ligue 2 et National ou CFA.
Ouais, mais donc ils ont rencontré une Ligue 1, tu vois, alors que se dire que tu t'en rencontres.
Je dis peut-être des bêtises, je m'en souviens pas par cœur. Ouais. Hein, c'était la saison 2016-2017 ou 2015-2016, je m'en rappelle plus. 2016. Ça devait 2015, être ça. Hein. Ouais. Et alors je vais vérifier en cours de route.
Ouais, parce que c'était en 2010.
C'était l'année dernière.
C'était en 2016, la finale contre l'OM.
PSG Marseille, en 2016, la finale 2016. Parce que justement, ils avaient dit que ça allait être le test, pour un test en grandeur nature pour l'Euro.
Voilà. Ouais, donc Marseille avait rencontré en...
En 16... Alors attends, 32e, si je dis pas. Mais, ah bah si, il y avait Caen. Caen en 32e. Mmh. En 16e, l'AC Ajaccio en. Non, c'était Montpellier aussi, qui avait, ils avaient battu 2-0. Et à partir des 8e de finale, Marseille-Trélissac. Quart de finale, Marseille-Granville. Et ouais. Demi-finale, Marseille-Sochaux. Voilà.
Ouais.
Et ça me fait rire parce que quand ils sont souvent dans les demi ou les quarts et ils vont jamais en finale pratiquement.
Ouais.
À chaque fois, le finaliste rencontre quand avant d'aller en finale. Ouais. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils aient un peu plus de réussite. Hein, parce que...
C'est un peu comme Rennes aussi en coupe. Parce que...
Là, ils sont pris 600. Hein, ouais. Ils ont fait violer chez eux cette année.
Bah, ouais. Cette année, Rennes élimine deux fois par le PSG. Deux fois.
Tu sais, c'est, ça me fait penser aux Vikings qui rencontrent Astérix sur le bateau.
Ouais, c'était toujours
ils
pareil.
Eux, non, pas eux, mais pas Astérix, j'espère.
C'est ça. Et à l'inverse, t'as les autres en mode Obélix, quand ils voient Rennes, ils font oui, les Rennes, les Rennes.
C'est les pirates, surtout dans Astérix et Obélix, ils ne permettent pas les Vikings.
Pas
de soucis.
Mais par contre, parce que vu qu'on parle de parcours, on a évoqué la finale et tout, ça fait plus de 30 ans que je suis le foot. Et je crois que hier, j'ai enfin compris c'était quoi la magie de la coupe, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Parce que, moi, j'ai ressenti aussi. Je veux dire, j'ai vu des finales de coupe, mais celle-là, j'ai vu une émotion particulière.
Ouais, mais on est d'accord. Et c'est marrant parce que moi, d'habitude, qui a un côté sans pitié, d'ailleurs, je l'avais même dit avant le match, hein, voilà, s'il faut en mettre 15, mettez les 15, quoi. C'est, parlant de Paris et tout. Et puis finalement, bah, le match déroulant, bah, tu te prends d'affection pour le petit et t'as envie qu'il fasse quelque chose. Et c'est marrant parce que... c'est un sentiment que je n'avais jamais vraiment ressenti avant la finale d'hier. Et je crois que j'ai compris. En fait, hier, ça a été un déclic. J'ai enfin compris la magie de la coupe. Et limite, je suis pressé d'attendre l'année prochaine pour, avec cette A9 pour voir comment...
C'est une compétition magique par rapport à la Coupe de la Ligue. C'est vrai que la Coupe de France, moi,
ça n'a rien à voir.
Ça a toujours été pour moi quelque chose. Et d'ailleurs, beaucoup de supporters marseillais, je veux dire... miseraient beaucoup de choses pour une victoire en Coupe de France qu'ils avaient depuis 92. Sûr. C'est une compétition qui est à part pour moi.
Ouais. C'est exactement le côté froid professionnel, la Coupe de la Ligue et champêtre, convivial, la Coupe de France, et avec une histoire. T'as beaucoup plus de clubs, il y a beaucoup plus d'histoire dans la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Hein,
toujours le petit contre le gros. C'est tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a envie de voir le petit battre le gros.
C'est ce
qu'on a envie de voir de toute façon. Et bah, malheureusement, en Coupe de la Ligue, il n'y a que quelques clubs de national qui le jouent. Et encore, ils sont vite éliminés, hein, de toute façon. Hein. C'est rare en Coupe de la Ligue, à part Vannes et je ne sais pas quelle équipe de Ligue 2 qu'on fait une finale de Coupe de la Ligue. Mais tu n'en vois pas beaucoup. Hein. C'est souvent une finale entre deux Ligue 1, quoi.
Ah, c'est certain. J'ai adoré le tifo aussi qu'il y a eu au Stade de France, la présentation. Ils ont sorti un peu l'argent, la Fédé, là. Le feu d'artifice avant le match, qui a été plus ou moins diffusé sur France 2, quand j'ai revu le match aujourd'hui, c'était vraiment grand.
La cérémonie avec la cérémonie avec la bâche avec la coupe et tout, c'est... Non, c'était pas mal. Et justement, quand on comparait avec la Coupe de la Ligue, ça qui est marrant, c'est qu'en rigolant, on disait qu'il y avait un côté un peu champêtre, limite kermesse, en fait, avec ceux qui étaient sur le terrain, avec leurs drapeaux, qui faisaient les mouvements, les chorégraphies et tout. Et finalement, ça fait partie du charme du truc. Quoi.
Ouais, c'est ça.
J'ai fait les deux dernières finales de la Coupe de la Ligue, où... ou l'avant-match, c'est du Jean-Michel Jarre.
En fait, ils veulent absolument faire à l'américaine avec un show avant, un show de mi-temps. Mais c'est ridicule, on n'arrivera jamais à... Surtout avec la... le niveau de la Ligue 1, faire aussi splendide qu'un show à l'américaine, de toute façon. Vous rappelez bien quand Maître Gims... Ou même, c'était Maître Gims qui avait fait c'était le début, hein, je ne me rappelle plus, l'année dernière, c'était, je crois, ou il y a deux ans.
Il y a deux ans,
où il s'est fait siffler parce que c'était ridicule, quoi. Enfin, voilà.
ça intéresse pas ça. Ouais. Et bon, il y a un truc aussi que je voudrais parler, c'est que beaucoup donc disent oui, Paris, ils ont battu la petite équipe, voilà, c'était trop facile pour eux, mais au moins Paris, faut l'avouer, même moi qui suis marseillais, c'est un triplé historique.
Ils ont fait il y a 2 ans et puis il me semble aussi que j'ai vu un record. C'est depuis 4 ans, ils atteignent un record que la Juve va gagner aussi en coupe, s'ils gagnent la Coupe d'Italie, c'est, il y a un record européen. Ouais. Ils ont parlé de record européen.
Donc, c'est pas rien non plus. Hein.
C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris, excuse-moi.
J'ai vu un truc. Vas-y, à qui tu dis à moi,
Jérôme ? Ouais, j'ai pas compris la
catégorie. J'ai vu un truc sur tout à l'heure. C'est-à-dire que Paris est en train de battre un record au niveau européen, mais je veux le retrouver, les gars. Les... Ouais.
Non, ça doit être le nombre de. C'est la 4e fois qu'ils gagnent la Coupe d'affilée, voilà.
Ouais, c'est énorme.
C'est
les moyens, machin et tout. Voilà, c'est pas parce que t'as les moyens que t'es obligé de le faire, quoi.
Voilà, alors certes, ça flanche un peu au niveau de l'Europe, mais voilà, ça fait des trophées en plus pour le club, et c'est ce qu'il faut. De toute façon, pour grandir, il faut gagner des trophées. Et voilà, c'est ce que fait Paris brillamment. Le championnat, ils l'ont survolé. La Coupe de France, ils l'ont joué jusqu'au bout. La Coupe de la Ligue aussi. Enfin, il n'y a rien à dire. Hein. On ne peut pas. Avec n'importe qui en finale, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est comme ça. Bon. C'est... Paris a fait un triplé historique et bravo à cette équipe de Paris. Certes, maintenant, on attend beaucoup plus d'elle. On attend plus qu'elle se montre en Europe. Ça va sûrement arriver un jour quand même. Je ne sais pas, mais j'espère pour Paris, quoi.
La petite histoire qu'il y avait justement avant cette finale, c'était que Ben Arfa était dans le groupe. Je disais ça à Joseph.
Ouais.
Alors là, si Ben Arfa sur le terrain, là, je kiffe. Là. Parce que c'est assez dirigeant.
Bien sûr. Alors,
je me casse, je fais ce que je veux. Et finalement, il était en tribune. Donc,
Pour le dernier match.
Donc il aura joué aucun match cette année, quoi, c'est ça ?
2018.
Ouais. Aucun.
Ouais. Ouais. Aucun. Hein.
De la saison 2017-2018, il n'a joué aucun match.
Ouais. Ouais. C'est fou quand même.
C'est fou.
C'est fou. Par contre, est-ce que je peux aborder un fait de jeu
qu'on... Ouais, vas-y, il n'y a pas de soucis.
Parler.
La télé.
C'est insupportable. C'est insupportable. je sais pas quand ils vont enfin comprendre que ça sert à rien, hein, que c'est irrespectueux pour les spectateurs. Et encore, hier, on a eu la chance. Que Stéphane, le speaker du Stade de France, a expliqué quand même la décision de l'arbitre quand il l'a prise. Mais voilà, enfin, on peut pas avoir un joueur qui marque un but, qui fait 4 fois le tour du stade, des mecs qui sont prêts à engager et on vient 5 minutes après leur dire.
Surtout qu'en plus le but était valable. Hein,
soit il y a penalty, soit il y a but, quoi.
Ouais.
Ouais, non, mais il y avait faute du défenseur.
Il a signé la main en fait de Martinho, c'est ça qui.
Il a sifflé la main, mais il y avait faute sur lui, en fait. C'est pour ça, il y avait faute sur lui. Donc, le but, normalement, il n'aurait jamais dû être, refusé, quoi.
Surtout que j'ai vu le ralenti avec un mec qui était en tribune avec moi. Il m'a montré l'action. Je ne sais pas comment il peut passer. L'arbitre, il a revu les images, en plus. Comment il ne peut pas voir la grosse faute, hein. Je veux dire, si on met la vidéo, c'est bien. Mais si on a des gens qui ne savent même pas analyser, c'est un problème.
Non, clairement. Clairement.
Des hors-jeux
pas signalé alors que le mec il est 2 mètres devant, l'arbitrage était pas au niveau de la fête et je veux dire heureusement que le match était déséquilibré parce que ça a pu faire des dégâts
Tu vois quand même qu'il y a un gros souci avec l'arbitrage, mais dans toutes les compétitions, hein, c'est ahurissant quand même, hein. Il y a un gros flop avec les arbitres, hein, maintenant, ouais. Hein.
Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que, en rigolant, je dis à Gabi, tu vas voir qu'ils vont demander la vidéo.
Je croyais pas.
Et en fait, on voit les joueurs désherber. Et c'est ça qui est marrant. Et c'est là qu'on voit en fait que l'arbitre, pour le coup, la possibilité d'avoir la vidéo, en fait, ça leur enlève trop de responsabilité. Alors que le but de leur job, c'est d'en prendre. Ils se mettent la pression par un genre désherbier, quoi. Et on dit, non, mais allez voir. Et du coup, au début, il dit rien, et puis au bout de 2 minutes, il dit bon, allez, je vais voir. Et il fait le signe et tout, et il va voir.
C'est-à-dire que, c'est le mec dans l'oreillette qui l'a dit. Il paraît que c'est sa voix d'autre par oreillette, c'est qu'il y a un mec du camion en fait. Il, interpelle l'arbitre.
L'Allemagne.
Et puis, non, mais c'est, en France, c'est pareil. C'est, il cru comprendre que c'était comme ça.
Donc. C'est hétéro, ouais. Ça, dans Retour vers le futur, sur le parti.
C'est ça. Je vois les Pakistanais. C'est les Pakistanais qui étaient là.
Voilà. Non, mais, moi, je suis au stade. Je vois un joueur en fait, qui met une pression à l'arbitre. Donc, je me dis que c'est lui qui va voir l'écran. Et là, tu me casses mon délire en me disant non, en fait, c'est un mec qui lui parle dans l'oreillette. C'est encore pire.
C'est ça, on est d'accord.
C'est ça, hein,
c'est ça.
Hein. Je sais qu'on le répète à chaque fois qu'on parle de vidéo, mais ça veut dire que c'est quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'est même pas dans le stade, qui prend une décision en fait, et qui influe en fait, le score et le jeu. Quoi. Mais bon, heureusement que le match il jouait pas assez après. Et sinon, ouais, j'avais un autre truc aussi. Avant le match, j'avais dit j'espère qu'on n'y aura pas droit. Et malheureusement, on y a eu droit, c'est de faire venir le capitaine des Herbiers pour soulever la coupe. Quand c'est téléphoné, il ne faut pas le faire. Enfin, on l'attendait tellement que justement…
Alors, ça me choque moins qu'en 99, enfin en 2000 pour Calais, où Nantes avait obtenu un pénalty ultra litigieux et qui, à la fin, ils avaient dit à Réginald Debeck de venir soulever la coupe. Là, j'avais trouvé ça un peu petit parce que franchement, Nantes méritait pas du tout la victoire. Ouais. Là, ouais, bon, bah oui, c'était téléphoné. On savait pertinemment que de toute façon, vu que c'était une équipe amateur, d'aller soulever la coupe avec le Paris Saint-Germain. De toute façon, on s'y attendait. Ouais, mais... hein, ça pouvait pas se passer autrement.
Toi, elle est pas belle. Enfin, tu vois la tête du mec. T'es limite, ça le saoule, quoi.
Après il a expliqué c'est qu'il s'y attendait pas, mais à la fin il a expliqué les interviews d'après match, après il était vraiment, on sentait vraiment qu'il y avait une émotion, etc. De toute façon, ouais. J'ai trouvé ça, je pense pas que c'était calculé de la part du, moi ça m'a pas trop surpris de la part de Diego Simeone, parce qu'il avait, je sais pas si vous avez écouté son interview avant le Coupe de France, il a dit j'ai été amateur, je sais ce que ça peut représenter, je veux dire, de jouer contre des professionnels.
Déjà vu, mais il y a un côté déjà vu, tu vois, enfin quitte à vouloir faire un geste, ben tu les invites sur la photo. Tu sais, quand on disait tout à l'heure que pour eux, en fait, ils avaient déjà gagné sur le fait d'être au stade. Ben, tu vois, quand ils vont sous l'arche avec la coupe, c'est pour prendre la photo. Ben, invite-les sur la photo. Voilà, ça se fait, c'est sympa. Là, tu as plus de chances de te dire que c'est spontané. Tu vois, c'est
ensemble. Et d'honneur quand même, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est supérieur au
logo. Et puis après, dans le vestiaire, les joueurs sont allés dans le vestiaire après, ils ont pris des photos, ils ont eu un bel échange.
Ouais, ouais. Bah, mais tu vois, ils auraient pu s'arrêter à l'œil d'honneur, tu vois, la belle image, on l'avait déjà eue. Tu vois, rajouter encore une couche sur quelque chose qui se fait déjà, enfin, je sais pas, ça.
C'est grave, ça va.
Non, c'est pas grave, mais, mais j'aime pas quand c'est cousu de coupe blanche.
Téléphoné, ouais.
Ça.
Bah, à la limite, mais je pense que ça leur aurait fait plus de mal de venir sur la photo avec la coupe en sachant qu'ils ne l'avaient pas. Je pense que même le tour d'honneur avec la coupe mélangeant entre les deux équipes, non, ça aura... je pense que tu as des joueurs des Herbiers qui n'auraient pas trop supporté émotionnellement de le faire. Parce que je pense que tu as quand même des joueurs qui voulaient vraiment la gagner, hein, qui n'étaient pas là pour.
On sentait le regard, c'est à la fin du. Le regard et tout, les attitudes, mais. Mais c'est vrai, donc à la fois ils étaient heureux et de leur côté, c'est vrai que quand on a vu à un moment Thiago Silva brandir la coupe, et même le capitaine des Herbiers, j'ai regardé le regard des joueurs, et puis certains étaient vraiment tristes, il y avait la tristesse dans leur regard.
Sauf là, quoi, il a envie d'être partout, sauf là.
Ouais,
quoi.
Et puis je pense aussi que c'est la fin d'un rêve pour eux, que ça se trouve, certains ne reconnaîtront jamais cette sensation. Et voilà, je pense qu'en plus, ils ont dû bien dormir la nuit ou vont bien dormir la semaine qui va arriver parce que voilà, c'est une pression en moins qu'il y a. Et quand on sait que tu as la pression qui tombe, et ben t'es complètement naze. Voilà, je pense qu'ils sont passés par toutes les émotions. Quoi.
Mais justement, c'est ce qu'on faisait hier avec Gabi. Imagine tes joueurs, tu as l'habitude de jouer devant une affluence, on va dire, de 1500, 2000 personnes dans le meilleur des cas. Et d'un coup, comme ça. Pour tes couleurs, t'en as 25 000. T'sais, tu dis, waouh, c'est quoi le truc, quoi. Et le match d'après, tu es peut-être monté à 3 000, 4 000 parce que tu surfes encore sur l'engouement. Et tu dis, en fait, que t'as à faire déplacer autant de gens pour ton équipe avec tes couleurs. Parce qu'en plus, c'était pas genre, on achète un maillot, on met un t-shirt rouge pour dire qu'on est dans l'ambiance, quoi. Enfin, les gens, ils avaient vraiment des maillots des Herbiers, quoi. Mmh. Et,
Ils ont dû, à mon avis, augmenter leur capital grâce à ça. Hein.
Leur chiffre d'affaires et tout, ça doit être pas mal.
Et bon, je pense que le gagnant, je sais pas, le perdant, je sais pas combien il va toucher de la Coupe de France, mais ça va leur faire un sacré coup de pouce aussi.
1,5 million.
Ouais, pour une équipe de national, je pense que c'est pas rien. Hein.
Bah, je crois que sur tout le parcours, ils ont gagné 2 millions.
Ouais, voilà.
C'est 2 millions sur tout le parcours qu'ils ont gagné sur la Coupe de France, leur budget annuel.
Bah écoute, et puis bon, avec les transferts qui vont avoir, alors ça va pas être des 100 et des 1000, mais voilà, ils pourront essayer de recruter un peu mieux pour la saison prochaine, quoi. Non, c'est bien, franchement.
Ouais, le plus dur va commencer, hein, parce que quand on parlait de Calais, justement.
Ils ont mal fini, après, malheureusement.
Ouais, c'est ça, après, ils ont pas mal galéré. Même Quevilly, hein, tu vois, bah, Quevilly, ils ont dû finalement. Enfin, ils ont fait l'ascenseur avant de remonter, mais en.
Ils ont fusionné, je crois.
Avec Rouen.
C'est souvent des lendemains difficiles, quoi, donc j'espère qu'ils en ont bien profité.
Il leur reste un point pour le maintenir en national.
Pour accompagner Créteil, enfin pour éviter d'accompagner Créteil. Arrête. Voilà, comme ça, je l'ai dit, je vais pouvoir lui pleurer.
Tu l'as placé, ça y est.
Voilà.
Il y a un autre petit truc que je voulais juste dire aussi, c'est. Ouais. J'ai beaucoup apprécié Cavani à la fin du match là, qui est resté avec les supporters pendant 10-15 minutes tout seul en train de chauffer le public.
Avec le drapeau du supporter. L'Uruguay, puis il a pris un moment le drapeau des supporters aussi. Ouais.
Comme un capot. Et j'ai eu l'impression qu'il avait envie de partager à fond, comme si c'était peut-être un de ses derniers moments au PSG.
Je pense pas.
Il y en a qui pensent pas, mais. Ouais. Lui, je pense que dans son optique, il se dit, faut que je profite à fond, et voilà, on verra quoi.
Moi. Mais c'est peut-être que c'est la fin. Bon, après on verra ça. C'est pas fini. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je suis beaucoup sur Facebook les championnats un petit peu de partout du sud d'Amérique du Sud. Et quand je regarde la différence entre les supporters uruguayens et les supporters brésiliens envers Neymar, donc les supporters uruguayens. Ouais. Ils ont mis que Cavani avait gagné la Coupe de France. T'as aucun dislike, t'as aucun émoticône là avec le personnage en colère là. T'as que des cœurs, t'as que des pouces bleus et dans les commentaires c'est Cavani, c'est vraiment le meilleur joueur d'Uruguay qu'il ait jamais eu. C'est vraiment un super joueur. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. A contrario, quand tu regardes au Brésil, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, au Brésil, Neymar, il est peut-être adulé par certains, mais tu en as beaucoup qui disent que Neymar, de toute façon, à Paris, c'est un manque de respect pour Paris, tu vois. Et tu vois quand même que, en France, Neymar, il va peut-être être plus apprécié que Cavani, mais quand tu regardes dans les autres pays du monde, Cavani, il est quand même au-dessus de Neymar, et c'est compréhensible. Ouais. Hein.
Et je pense qu'en France, quand je regarde les réseaux partout, c'est vrai que Cavani, il a cette unanimité dans tous les supporters de Ligue 1 et en France. Je pense que dans son attitude, etc., je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, toi qui es avec supporter Monaco, même à Marseille, c'est un mec qui est respecté, adulé, et jamais
mais bien sûr, mais bien sûr. C'est un mec qui respecte un club, c'est le mec qui a respecté le club, même quand. Il avait des doutes, il a quand même respecté. Il aurait pu partir, il aurait pu dire allez, ça me casse les couilles, je me barre. Non, il est resté, il a bossé, il a montré que c'était un très grand attaquant. Et pour moi, comme je disais la dernière fois, Cavani, c'est peut-être le meilleur joueur depuis Pauleta, quoi.
Exactement. Moi, je pense qu'il est entré dans le cœur. Puis moi, j'avoue, hier, j'avais son maillot, c'est pas pour rien parce que c'est un joueur. Moi, j'ai envie de m'identifier de toute façon en tant que. Tant que supporter du PSG, mais en tant qu'homme aussi, c'est quand tu vois son attitude, et même son attitude vis-à-vis des supporters adverses. J'avais vu faire un geste répréhensible envers un supporter adverse, même pendant le Classico contre Marseille. Il a toujours cette façon de cette attitude-là vis-à-vis d'eux. C'est pour ça qu'il est autant aimé et apprécié. Et c'est un modèle à suivre pour tous les footballeurs, même pour les joueurs désherbés hier. Hein, je pense qu'à la fin du match, j'ai vu prendre du temps saluer avant qu'ils rejoignent. Ses coéquipiers, il a pris du temps avec le gardien, avec les joueurs des
arbitres. Ouais, il a salué longtemps le gardien, longuement le gardien. Ouais.
Mais ce qui était marrant, c'était saisissant parce que d'un côté, justement, on avait Cavani qui était dans la communion. Et quand tu parlais de Neymar, tu vois, Neymar qui n'a pas joué, qui était en jean, il avait quand même mis le maillot pour la photo.
Ouais,
en
fait,
qui squattait la coupe, quoi. Le mec,
il est venu soulever la coupe, ouais. Ouais.
Ouais, non, après qu'il ait la soulevé, il fait partie du groupe, ça me dérange pas.
Il a quand même gagné parce qu'il a joué quelques matchs.
Ouais, mais le mec, il avait mis une OPA dessus, quoi. C'est genre, en fait, t'avais l'impression que qu'on avait un peu la géographie du vestiaire hier pendant la célébration. Parce qu'en gros, voilà, la coupe, j'ai l'impression qu'il y a que les Brésiliens qui avaient le droit de la toucher hier. Et c'était là, ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Et je m'étais dit, bah, Cavani, en fait, il a raison. Parce que pendant que les autres, en fait, ils font les tchétchés à faire les photos, à être derrière les caméras et tout, bah, lui, en fait, voilà, bah, quand tu joues, tu as souvent l'expression qui dit, ouais, on le fait pour les supporters. Bah, lui, en fait, il a montré en fait, qu'il l'avait fait pour les supporters, vu qu'il a été communié avec eux.
Mais moi, en tant que supporter de Marseille, il y a peu de joueurs parisiens que j'apprécie, mais Cavani est un des seuls joueurs que j'arrive à apprécier parce que exactement, il est exactement comme ça. C'est un mec proche des supporters, c'est un mec qui va se remettre en question quand ça va pas, pas un mauvais geste sur le terrain, vraiment, non, franchement, c'est un super joueur. Et si Paris venait à perdre Cavani, ça pourrait faire mal quand même.
Et puis et surtout si les dirigeants ont le malheur de T2, etc., je pense qu'il se mettra à dos une grande partie des supporters du PSG, voire tous. Hein. Mmh, que c'est un... Mais surtout, moi, ce que j'aime chez Cavani, c'est genre, on peut en battre des heures, mais il a un côté naturel, que même hier contre les Herbiers, il rate des occasions, il peut dire, oh, c'est pas grave et tout, il y a 2-0. Non, tout de suite, toujours concerné par la chaussée à la fin du match. Le match n'est jamais fini, je veux dire un truc. C'est vraiment quelqu'un qui est natique. Qui se ménage pas ses efforts, quel que soit l'adversaire en face.
Ouais. C'est un exemple. C'est un exemple. Voilà.
Bon, bah, c'est sur ces paroles qu'on va fermer cette page Coupe de France. Et ben voilà, on se retrouvera pour la Coupe de France dès juillet-août pour les clubs amateurs. Et puis, si c'est pas déjà commencé. Et puis, faudra attendre janvier ou décembre. Janvier, ouais. Non, c'est janvier, ouais. Voilà, pour voir les clubs de Ligue 1 en 32e de finale. Ouais. Et on va passer à la Ligue 1, justement, car samedi et dimanche dernier, et même vendredi, dernier, il y a eu la 36e journée de jouer. On va parler de quoi? On va parler d'abord de Paris qui a fait un match nul à Amiens. Paris qui
sans
a fait
plus.
Du sans plus, hein, qui a fait du PSG, le PSG qu'on n'aime pas, quoi. Ça a fait le PSG qui se la joue tranquille. De toute façon, ils sont champions, ils n'ont plus rien à craindre. De toute façon, maintenant. Les gars, vous avez quelque chose à dire sur cette équipe sur ce match là?
Moi, je retiens plus le match d'Amiens qui, comparé à leur façon de jouer d'habitude, j'ai trouvé beaucoup plus joueurs contre Paris. Ils se sont plus lâchés, ils ont moins respecté, ils ont pas respecté, ils se sont rentrés dedans. J'ai trouvé ça. J'ai vu, je voulais mettre en avance le match d'Amiens parce que le PSG, bon, maintenant ce match, la vérité, je m'en foutais un petit peu aussi, tu vois. Donc, j'ai trouvé l'attitude d'Amiens, je veux dire, très bonne. Ils ont pas dit, ils ont tenté le coup à fond. Comparé à d'autres équipes qui, contre Paris, n'osent pas tenter le coup même quand le PSG est moins bien.
Ah, et toi, Gabi, alors?
Moi, ce match, j'ai trouvé assez ridicule. Ridicule. dans plein de choses, parce que Paris a été là-bas sans vouloir faire quoi que ce soit, et puis il y a eu des choses en défense qui m'ont pas forcément plu. Tu vois un peu la fin du PSG qui est déjà champion, qui a pas envie de jouer. Et puis des erreurs par-ci par-là. Amiens, bon, ils ont joué pratiquement à fond. Hein. Enfin, ils pouvaient pas faire plus. Mais bon, c'était un match que, sincèrement, à oublier rapidement pour les Parisiens et qu'ils ont même pas considéré, je pense. Ouais. C'est un peu ça qui est triste parce que t'as des matchs qui vont être importants pour les gens qui vont se maintenir. Et puis ceux qui vont rencontrer Paris, bah, ils ont un peu plus de chances de faire des matchs nuls que de perdre maintenant. Donc, c'est terminé la saison. D'ailleurs, je ne sais même pas contre qui Paris va jouer pour célébrer.
Rennes, on reçoit Rennes.
Ouais, bah, tu vois, ils peuvent gagner au Parc, par exemple.
Ils jouent la qualification pour la Ligue Europa.
Donc là, en plus, la sixième place, du coup, est qualificatif.
Directement,
vu que, voilà, vu que Paris
a gagné la Coupe de France. Mais il y a un match, il me semble qu'il y a... Il n'y a pas, c'est qui jouera un barrage alors? Parce que je sais que pour Ligue Europa,
le quatrième et le cinquième, alors normalement, devraient être qualifiés directement et c'est le sixième qui doit passer par les barrages.
Les derniers, ouais, comme Paris avait gagné.
De mémoire, il n'y a que le quatrième en fait qui est
qualifié directement. D'accord. Ouais, okay, oui, et après le 5 et le 6, barrage, le cinquième dispute, je crois, le dernier tour de barrage, je crois, et le sixième, c'est plusieurs tours qualificatifs, je crois.
Je crois que c'est un peu ça. En même temps, ça change tous les ans. Donc,
oui, voilà. Donc, on sait pas trop. Quoi.
C'est ça, ouais. Mais par contre, ouais, en parlant du côté des joueurs en fait, qui sont alignés par, pas Unai Emery. Quitte à fausser le championnat, fausse-le pour de vrai, quoi. Ce que je veux dire, c'est quand on voit en fait les performances d'Nkunku, mais 11 Nkunku sur le terrain, des gamins qu'on voit pas, que tu peux mettre en évidence. On parlait de Ben Arfa tout à l'heure, donne-lui du temps de jeu, comme ça il sera champion. Fait de manière que tout ton effectif pro, parce que c'est vrai qu'on se limite souvent aux 16-17 qu'on voit tout le temps, alors qu'en fait le groupe il doit être de plus d'une vingtaine de joueurs. Mmh. Tous les gamins avec qui sont là pour faire le nombre à l'entraînement, donne-leur du temps de jeu, comme ça sur le CV ils seront champions de France. Mais plutôt que de mettre.
Tu sais, peut-être qu'il veut préserver, tu sais, Nkunku, parce que quand tu vois ce qui est arrivé à Kimpembe qui est en train de prendre un peu la grosse tête, et joueurs comme Mbappé, on n'a pas parlé d'Mbappé pendant la Coupe de France, la finale, mais il a perdu
le football. J'ai envie de dire des gros mots pour ça.
C'est un joueur maintenant qui fait un peu trop de trucs superflus qui servent pas à grand chose. Et puis voilà, Nkunku, faut pas qu'il tombe dedans, j'espère. Donc peut-être que il est intelligent pour pas le mettre à tous les matchs et le préserver.
Ouais. En fait, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qu'on voit, mais limite, je pense qu'il a un stade où il peut dire qu'il veut jouer, qu'il veut pas jouer. Tu vois, je préférerais qu'un joueur me dise franchement, coach, j'ai la tête à la Coupe du Monde, j'ai pas envie de jouer. Comme ça, tu fais jouer quelqu'un qui a envie, mais pour éviter justement cette bouillie de foot. Là ça va parce que c'était à Amiens, donc les spectateurs ils ont apprécié parce qu'ils ont vu leur équipe briller, mais voilà, tu vois une équipe fournir ce même match au Parc.
Je pense pas que samedi ils le feront.
Voilà, tu vois, ça mettra un malaise parce qu'il faut pas oublier que les gens ils payent pour aller voir ces équipes là. Si tu payes pour voir des stars qui jouent pas, mais des personnes qui sont pas stars mais qui vont en jeu, quoi.
Bah, tu sais que la dernière, c'est arrivé souvent. Hein. C'est arrivé souvent. Ouais. Heureusement que le PSG joue pas très bien et qu'il y ait des 1 partout à la fin. Ils en avaient un peu rien à faire. Une fois qu'ils étaient éliminés de la Champions League contre le Barça, ils en avaient.
Ils se sont relâchés, quoi.
Ouais.
Puis là, quand tu vois Kurzawa et Dani Alves, c'est des sketchs, ouais, les deux.
Mais hier, Daniel Alves, il a pas été bon non plus. Hein. Je l'ai pas trouvé bon sur le terrain. Hein.
Non, il a pas été. Bah, c'est lui qui s'est fait déborder à un moment donné en vitesse.
Ouais.
Ça me fait bien rire. Il reste une année encore, mais ça me fait bien rire.
Bah, il est blessé là en plus. Il va peut-être pas jouer à la Coupe du Monde. Il a une bonne blessure là.
Il a une blessure au pied finalement là qu'il a.
C'est les genoux. C'est les genoux, je crois.
Ouais.
Ah d'accord. Bah, on verra.
Pour une fois qu'il fait pas semblant.
ouais.
Voilà, bon, Paris donc qui fait 2 partout, Paris qui a 92 points, qui peut espérer attendre, ils attendront pas la barre des 100 malheureusement.
Mais 98 parce que, ils peuvent attendre.
98, ce serait pas mal, hein, ce serait déjà un record.
Et pour fêter les 20 ans de la victoire en Coupe du Monde, ça sera un petit clin d'œil.
Ouais, en plus, ouais, ce serait pas mal, ouais, c'est clair. On va passer, vu que tu es là, Joseph, on va passer à Monaco-Caen. Alors, tu étais au stade Michel Dornano. Et vas-y, livre-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre.
C'est encore bizarre hein, comme match. Bon, par contre, j'ai bien apprécié l'audace de Jardim. Qui a pas hésité, qui était aussi un peu forcé par les événements entre les blessures et les suspensions, mais qui a fait place à la jeunesse. Et du coup, on a vu le petit Serrano jouer derrière, le Moussa Sylla devant, qui sans forcément avoir été extraordinaire, gamin, il a eu 2 ballons, il met 2 buts. Voilà, c'est vraiment pas mal. On a enfin vu Jordi Mboula aussi qui est rentré. Voilà, alors qu'en début de saison, tout le monde s'attendait à que ce soit un gamin qui casse tout. Et puis finalement, à part le premier match amical en pré-saison, on ne l'a jamais vu. C'était un match assez bizarre parce que, comme on disait les semaines précédentes, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé dans l'équipe monégasque.
Ouais.
Et en fait, on n'arrive pas à comprendre. Parce que là, en termes d'état d'esprit, justement, c'est la jeunesse a insufflé quelque chose qu'il n'y avait pas sur les dernières rencontres. Du coup, on a vu des choses pas mal pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, patatras, en fait, tout s'est effondré. Alors que le scénario était tourné plutôt en la faveur des Monégas, parce que, parce qu'on a mené. En face, il n'y avait pas vraiment de danger parce que Crivelli, à part courir et mettre des coups, il ne joue pas au foot. Rodelin, c'est un match sur trois, il est bon. Bah, là, ça faisait partie des matchs où il n'était pas bon. Enfin, les planètes, elles étaient alignées pour que ça tourne bien pour Monaco. Ouais. Et puis finalement, comme d'hab, sans comprendre, ça déjoue, ça fait n'importe quoi. On a un Thomas Lemar qui, plus ça va, plus on a du mal à le
faire. Plus il disparaît, c'est ça.
Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, à croire que Monaco qui joue à Caen, il y a toujours quelque chose de spécial quand un joueur sort. L'année dernière, quand Mbappé est sorti, il y a une standing ovation pour lui de tout le stade. Et là, en fait, c'était marrant, mais on a Thomas Lemar qui sort, qui est applaudi par Dornano, et pourtant qui est sifflé par le parquage monégasque, quoi. C'était bizarre. C'était bizarre.
Mais, il est formé à Caen, il a joué à Caen, c'est pour ça qu'il a été peut-être applaudi aussi, Joe.
Oui, ouais, ça, non, clairement, mais bon, ça fait bizarre.
En fait, ça fait bizarre, ouais.
D'avoir ce contraste.
Je peux pas, Geoffrey, là, je suis...
C'est plutôt là.
Pardon, excusez-moi.
Non, il n'y a pas de souci. C'est bizarre ce contraste parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse, quoi. Tu vas être soutenu par par tes supporters et sifflé par les supporters adverses. Donc c'était assez particulier. Et puis finalement, ça se termine là parce que Moussa Sylla, en fait, nous marque un but inespéré sur le pass décisif de Rémi Vercoutre. Donc. À part le résultat, limite, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que quand on parlait de Gambardella tout à l'heure, on a eu un moment, 4 ou 5 joueurs de moins de 20 ans sur le terrain. Et ça laisse présager de belles choses, j'espère, pour
l'année prochaine.
Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'on reste dans la course, d'autant plus que Lyon avait gagné, que Marseille a gagné après. Le match qui a été pour l'AS Monaco.
On va bientôt terminer cette émission. On va terminer par le match de Marseille. Je vais juste rappeler vite fait les scores des autres rencontres. Saint-Etienne, on salue Rétro qui s'était déplacé à Geoffroy Guichard pour Saint-Etienne-Bordeaux. Saint-Etienne qui perd 3-1, qui a fait presque un non-match, qui a vraiment fait n'importe quoi, Saint-Etienne contre Bordeaux. Lyon qui a battu 3 buts à 0. Dijon ensemble. Qui a battu Guingamp 3 buts à 1. Metz qui a perdu contre Angers 2 buts à 1. Et Metz qui a donc condamné à descendre en Ligue 2. Nantes qui perd à domicile face à Montpellier. Le Stade Rennais qui bat Strasbourg 2 buts à 1, le LOSC qui se rassure en battant Toulouse 3 buts à 2 et finalement le LOSC est maintenant 16e. Et enfin on va arriver à ce match de Marseille qui était dimanche soir à 21h05, et oui c'est plus 20h45 ni 21h, c'est 21h05, et Marseille qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Nice. Ça avait très mal commencé avec dès la 5e minute un but de Mario Balotelli. Je pense que l'équipe de Marseille n'était pas du tout dans son match à la 5e minute, c'est vraiment un but très con qu'ils se sont pris. Et puis après il y a eu le réveil avec un Dimitri Payet en feu, égalisation de Valère Germain à la 13e minute de jeu, et Dimitri Payet qui marque à la 72e minute de jeu grâce à une passe de Clinton J qui venait de rentrer quelques minutes auparavant. Et donc Marseille qui gagne 2 buts à 1. Est-ce que pour vous, enfin vous avez vu le match tous?
Oui.
Ouais.
Moi je revenais de corps donc je ne l'ai pas vu.
Mais d'accord. Moi je vais te dire ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai trouvé que Marseille très emprunté physiquement. On sent que c'est en train de tirer sur la corde de Red. Hier ils arrêtent. On a l'impression que Nice, je trouve qu'ils ont raté une belle occasion de battre Marseille dimanche. Parce que je trouve aussi dire que Marseille n'a pas fait un grand match. Ils ont été sérieux. Il y a eu des belles actions offensives, mais physiquement, ça tire. Ça tire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais moi, j'ai l'impression
J'ai vu des joueurs fatigués. Après, je pense qu'ils sont tellement sur une bonne dynamique que malgré tout, ils sont fatigués, mais ils y arrivent quand même. Parce que il y a l'accumulation des matchs, mais c'est les joueurs, ils sont, comme je dis, sur tellement une bonne dynamique que tout fonctionne pour le moment. Et pour les supporters, tant mieux, quoi, parce qu'on est toujours dans la course pour, on peut dire la deuxième place, parce que là, maintenant, ce qui se joue entre les trois, entre Monaco, Lyon et Marseille, c'est la place de dauphin. Donc,
Mais après, je n'ai pas trouvé non plus le match exceptionnel. J'ai écouté Stéphane Guy qui disait que c'était un superbe match qu'on avait vu. Mais je n'ai pas trouvé non plus un match vraiment exceptionnel. Mais voilà, j'ai vu une équipe de Marseille qui, malgré être fatigué, bah, j'ai trouvé une équipe de Marseille quand même entreprenante. Face à une équipe de Nice bah, qui n'y arrive plus. Hein. Pour moi, cette équipe de Nice, je ne sais pas, ils commencent toujours bien leur match. Et puis après, je pense qu'ils lèvent le pied. Je ne sais pas ce qu'il y a.
Cette année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de fois ils ont ouvert le score, ils ont perdu le match. C'est ouais. Hallucinant. Donc Paris, ouais. C'était la même chose qu'on les a gagnés chez eux. Ensuite, je ne sais plus, c'est contre Marseille au match aller, tu te rappelles Nico, il y avait 2-0 pour Nice au bout de 20 minutes. Bah, je me demandais comment si Marseille n'avait pas sombré. Et on sent que voilà, c'est que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est ça. Bah, de toute façon, là, il y a Lucien Fabre qui part. Donc voilà, on ne sait pas quel. Ils disent qu'ils savent qui remplacer. Par qui remplacer, on n'en sait pas pour le moment, mais bon, je pense que Balotelli va partir. Alors, on l'annonce à Marseille, grâce à Puma qui ferait tout pour que Balotelli aille à Marseille. Bon, moi, je ne suis pas tellement pour, j'aime bien ce joueur-là, mais après, pour moi, il n'y a pas besoin de lui. Il faut un buteur, un vrai de vrai à Marseille.
Ouais, mais t'imagines si Marseille va en Ligue des Champions, ça aura de la gueule, c'est sûr.
Mais bon, ouais. Mario Balotelli, c'est inconstant, c'est ça que je veux dire.
Un coup, j'ai envie, un coup, j'ai pas envie.
Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas ce que ça pourrait donner, quoi. Mais bon.
Ouais,
voilà.
Home jacking, et après, il aura envie tout le temps.
Oui, voilà, ouais, peut-être. voilà, bah écoutez, les gars, vous voulez rajouter quelque chose sur cette Ligue 1
Moi, je vais rajouter un truc sur rapport au match de Metz. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça limite manque de professionnalisme des joueurs messins. Quand vous, je sais pas vous, vous voyez le scénario du match, 90e minute, 1-0 pour Metz. Mmh. Comment peux-tu te prendre deux buts de suite en une minute? C'est ça. Alors que tu imagines, je trouve que c'était limite grosse faute professionnelle des joueurs messins.
Ils sont foutus dans la gueule du loup eux-mêmes, quoi. En fait, ils sont jetés dans la gueule du loup eux-mêmes, quoi, malheureusement. Hein.
Mais l'attitude des joueurs, surtout, c'est pas moi, j'ai vu le résumé, ça m'a choqué. T'as pas le droit de prendre un but. Un but, tu peux prendre, tu peux te faire égaliser. Mais en prendre un tout de suite derrière, franchement, voilà, je serais supporter messin. Moi, limite, je dis pas que j'aurais envie de tout casser, mais bon.
Parce que c'est pas de toute façon, ils seront obligés de. Vas-y.
Non, surtout, c'est dommage en fait, d'avoir fait cette remontée pour.
Pour redescendre directement, je veux dire, remonter
au classement pour redescendre en fait sur un match où s'il était gagné, ben justement, il pouvait encore viser la place de barragiste.
C'est sûr. Voilà. Bon, donc, de toute façon, Metz qui est relégué en Ligue 2, bah voilà les gars, bah merci bien à vous d'avoir participé à ce podcast.
À la semaine pro.
À tous les gars, salut.
Salut les gars.
Salut, ciao.